de Gênes, des montagnes de Chatoise, donc du Doc et de la Chaux-de-Fonds, et puis des services médicaux, scolaires. Et on organise un certain nombre d'activités, de projets, puis un certain nombre de conférences comme celle de ce soir. Moi-même, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis médecin scolaire au local. Vous ne verrez pas beaucoup d'autres cadres scolaires aujourd'hui parce qu'en en fait, on a déjà travaillé pendant la journée avec le professeur Jeannet. Donc, d'autres personnes ont d'autres activités. La librairie La Méridienne est venue avec un seul livre du professeur Jeannet, si vous voulez poursuivre la réflexion grâce à ceci. Et puis une autre petite information, c'est que j'ai mis des cartons là, parce que j'avais oublié de mettre, on est toujours une boîte pour une collecte. Si vous êtes d'accord de mettre quelque chose, ça nous aide pour organiser d'autres conférences, d'autres projets. Je crois que j'ai tout dit. Alors je vous cède la parole.
Bien, merci encore. Je renouvelle mes remerciements de votre invitation qui, moi, me fait plaisir et m'honore aussi de pouvoir partager avec vous sur un sujet qui me tient à cœur mon expérience et où je pense que j'ai eu beaucoup de chance et en particulier de pouvoir, à la fin de mon internat à Paris en psychiatrie, me trouver dans un service où je suis resté 40 ans et où je suis devenu après le chef de service et qui était le premier qui a été dédié en France spécifiquement aux adolescents et jeunes adultes, donc de 12 à 25 ans. Et donc j'ai pu y rester, j'ai pu avoir des conditions de travail satisfaisantes, un gros service, quand même on avait 40 places d'hospitalisation, dont 8 lits d'urgence, 30 places d'hôpital de jour, à peu près 2500 adolescents suivis en consultation, donc qu'on pouvait suivre pendant assez longtemps. Et donc une expérience qui m'a beaucoup apporté, beaucoup enrichi, qui est pour moi aussi une leçon d'humanité, d'anthropologie humaine, et malheureusement, en tout cas c'est comme ça, je peux dire que l'adolescence et les adolescents en difficulté sont au fond, une expérience non voulue, bien sûr, c'est un côté presque expérimental pour nous montrer, au fond, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'être humain. Comment, au fond, un être humain peut être tellement pris dans ces deux grands mouvements, est-ce que je vais aller vers la créativité, c'est-à-dire la vie, l'échange, au risque de l'imprévu et de la déception, ou est-ce que, parce que voilà, j'ai peur, parce qu'il y a différentes menaces, je vais m'enfermer dans ce que j'appelle, moi, la destructivité, c'est-à-dire ce qui va plus dans le sens de la vie c'est l'échange, c'est un mouvement permanent, mais qui au fond se barricader pour se protéger, mais en se protégeant on s'enferme, et en s'enferme on peut finir par s'étouffer, je dirais jusqu'à en mourir. Donc voilà, on est là et sur, c'est une problématique humaine qui dure toute la vie, mais qui prend un caractère un petit peu plus aigu au moment de l'adolescence, parce que, on va voir, essayer de comprendre pourquoi, non pas parce que c'est une maladie, l'adolescence, c'est un phénomène physiologique. C'est en gros la réponse de la société à la menace, à la puberté. C'est pour ça que quand on nous dit que l'adolescence est une création moderne, la puberté n'a rien de moderne. Donc ça a toujours existé, sauf que la réponse de la société n'est pas la même qu'elle était dans les sociétés dites traditionnelles, ou quand il y avait des rites d'initiation, mais où on voit déjà que, dès que les sociétés se sont organisées, elles ont eu peur. Elles ont eu peur quand même de la désorganisation. Elles n'ont pas tout à fait tort, parce qu'une société qui se désorganise, c'est rarement le bonheur sous les cocotiers, c'est plutôt les massacres. Bon. Donc, il y a cette peur quand même de perdre le contrôle. Et on va essayer de voir pourquoi, justement, c'est à l'adolescence que ça se produit. C'est, je crois, parce que au moment de l'adolescence, de cette puberté, il y a une remise en cause, au fond, assez banale, du pouvoir et de la répartition du territoire, pour prendre un terme très éthologique, proche de l'animal, parce que les animaux supérieurs sont confrontés aussi à la puberté et au fait que il va falloir savoir qui commande. Et il va y avoir, donc c'est une période de tension. où il va falloir se poser et construire son territoire, et chez l'être humain, évidemment, d'une façon un petit peu différente que chez les bonobos ou les chimpanzés, mais pas si différente que ça, et où, voilà, c'est pas une période très confortable, c'est plein d'ouverture, c'est la vie, mais justement, comme l'ouverture est la vie, c'est pas maîtrisable d'avance, il va falloir faire ses preuves. Et qu'au fond, l'adolescence, ça va être un moment où il va falloir prendre de nouvelles distances, construire de nouvelles distances vis-à-vis des parents, se prouver à soi-même ses capacités, montrer ce qu'on a dans le ventre ou dans la tête. Et ça va interroger surtout qui, ben, comme toujours, ceux qui sont les plus anxieux. C'est-à-dire qui doutent d'eux-mêmes, qui ont ce qui est à la fois une richesse, souvent, une sensibilité particulière, mais qui est aussi une fragilité. Il y a toujours ces deux pôles-là. Ce qui fait notre richesse, c'est aussi souvent notre fragilité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne vont pas être emportés par les peurs, les craintes, le sentiment de... Et ils vont devoir donc prendre la mesure de ce qu'ils ont en eux, faire leurs preuves et se réapproprier, au fond, cet héritage que nous avons reçu de nos parents et qu'on n'a pas choisi. Hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au moment, justement, où on arrive adolescent, on commence à dire, ben, je suis un homme, une femme, je raisonne, je suis capable de réflexion, je sens qu'elle est mon pouvoir. Ben, je m'aperçois que, voilà, on n'a rien choisi. C'est quand même un petit peu dur. Ouais. Alors, les parents aussi, donc c'est quand même consolant, on n'est pas les seuls. Mais enfin, on n'a rien choisi de ce qu'on est. Personne n'a choisi d'abord de naître. C'est quand même, d'ailleurs, je pense que la Cour européenne sera saisie quand même un jour ou l'autre de ce scandale, que personne ne nous demande notre avis quand même sur quelque chose qui nous importe, c'est-à-dire si on veut vivre. Eh bien non, on n'a pas demandé notre avis. Donc, ça va être peut-être la dernière chose sur laquelle on ne nous a pas encore demandé notre avis. Mais voilà, celle-là, c'est quand même presque la plus importante. Et non seulement on ne nous a pas demandé notre avis pour devenir sur Terre, mais on n'a pas choisi si on voulait être garçon, fille, si on voulait naître dans cette famille, si nos parents nous convenaient, si le milieu social était ça, si c'était la bonne époque pour naître. Non, rien, rien, rien. Et même plus trivialement, on n'a pas choisi notre nez, nos oreilles, nos lèvres, nos machins, nos cheveux, nos trucs. Bon. Heureusement, il y a la chirurgie, enfin, bon, c'est quand même plus compliqué. Et donc, vous voyez, cette situation où à la fois c'est formidable et... Bon, n'oublions pas que c'est quand même une période de mise à l'épreuve de ce qu'on est. Bon. Et alors voilà, si on n'a pas choisi, si on est au fond dans la relation, et j'y reviendrai, de confiance, qui me semble important avec ses parents, qu'on a une confiance réciproque, eh bien eux non plus, donc ça nous fait un point commun, ils n'ont rien choisi, ils n'ont pas l'air de s'en porter trop mal, et voilà, on s'aime, et finalement on va essayer de faire, se débrouiller avec ce qu'on a. Mais si on a des comptes à régler, ah, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi tu ne m'aimes pas suffisamment, pourquoi tu m'as fait un petit frère dans le dos, pourquoi tu peux, enfin bon, tout ce qu'on peut se raconter, ben voilà, ça risque de devenir une occasion de revendication, de c'est parce que j'ai pas eu ci, c'est parce que j'ai pas eu ça, c'est pour ça que je suis pas suffisamment sûr de moi, suffisamment de. Donc ouais, c'est une période de questionnement, qui n'est pas une période très confortable. Bon, à la fois, encore une fois, c'est formidable, c'est pas confortable l'adolescence, il faut le comprendre. Et en plus, on est confronté à des désirs contradictoires, quoi. On a envie d'une chose et de son contraire, tout le temps, toute la vie d'ailleurs, mais enfin plus spécialement à ce moment-là. Bon, on voudrait ne pas travailler, mais réussir, être aimé de manière unique, mais pouvoir, au fond, avoir tous les amours qu'on voudrait. Mais bon, voilà, c'est tout le temps être proche à la maison, mais pouvoir être totalement indépendant. Enfin, bon, voilà, c'est la vie. Et c'est pas si facile que ça. Ouais. Donc, on comprend que ça va être un moment révélateur, au fond, de certaines vulnérabilités qu'on porte, dont une partie sont d'origine génétique, on y reviendra, on le connaît mieux, on n'a pas les mêmes tempéraments, c'est comme ça, hein. On n'a pas choisi non plus son tempérament, son humeur, tout ça on l'en a hérité, il faut se débrouiller avec. Voilà, on a une situation de confrontation à nos ressources, avec chacun des données, des bases qui sont pas les mêmes. Bon, et en particulier, j'y reviendrai, les émotions, nos capacités émotionnelles, la résonance émotionnelle des événements n'est pas la même pour les uns, pour les autres. Donc, c'est une période de tension, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles, voire de maladies, qui vont se déclencher à ce moment-là, parce qu'on est sous pression. Voilà, c'est des réponses à la pression, tous ces troubles-là. Bon, on est dans une tension plus particulière, où il va falloir faire la preuve de nos ressources propres, et d'autant plus qu'on n'est pas dans une société aussi cadré qu'autrefois, avec les avantages et les inconvénients que ça a, où la force des interdits aussi permettait de reculer. Si je pouvais faire les choses, ben vous verriez ce que vous verriez. Alors maintenant, si tu veux faire, ben vas-y, fais. Tu veux séduire, tu veux sortir, tu veux, ben vas-y. Ah ben oui, attendez, du calme. Je ne sais pas si j'ai la force pour le faire. Et puis je suis plein de contradictions. Hein. Vous voyez comment la liberté est une source d'anxiété. Il ne faut pas l'oublier. La liberté facile à réclamer, assez difficile à vivre. D'ailleurs, on le voit bien socialement. Bon. Parce qu'il faut choisir. Voilà. La liberté, il faut choisir. On ne peut pas tout avoir. Et on ne peut plus dire, c'est parce qu'on m'empêche. Et si j'en pouvais, vous verriez. Mais là, on dit, on voit. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, voilà. Je suis coincé. Vous voyez, donc la liberté est anxiogène. Je pense que c'est important de s'en rendre compte. La vie, d'ailleurs, est anxiogène. L'école est anxiogène. Alors maintenant, on voudrait nous faire croire qu'on pourrait avoir une vie sans anxiété. Ben non, je crois qu'il n'y a qu'au cimetière où il n'y a pas d'anxiété. Hein. Bon, la vie est porteuse d'anxiété chez les animaux, tous les êtres vivants, ils sont ceux qui vivent parce que voilà, il faut bouffer, il faut pas être dévoré, il faut vivre, il faut survivre. Ben nous sommes programmés pour être comme ça, un peu sur le qui vive. Bon. Et c'est à la fois utile et il ne faut pas que ça devienne excessif. Mais dire on va supprimer les causes d'anxiété, autant supprimer la vie, hein, tout de suite. Donc c'est vain, on ne va pas arrêter de dire, voilà, s'il n'y avait pas de compétition, si on ne demandait pas d'apprendre, si on n'exigeait pas, si, ben non, c'est pas possible de ne pas être en compétition, de ne pas exiger, de ne pas avoir des... Bon. Alors après, il y a une façon de le vivre. Voilà, le climat émotionnel dans lequel on le vit va être déterminant. Est-ce que c'est dans une ambiance de grande tension intérieure, de dramatisation? Vous savez, on s'aperçoit que le facteur le plus pathogène maintenant, c'est la dramatisation. Et ça se comprend. Si dans une famille, on vit avec le sentiment qu'on est tout le temps sous la menace d'une catastrophe et que c'est l'anxiété permanente, c'est stressant. Et le stress, quand il est continu et long, il est un facteur de perturbation. Et ça va, et à ces perturbations, on va réagir comme on peut. Donc, vous voyez que période particulière, mais révélateur de quoi? Mais de ce qui s'est passé avant, de notre héritage, de l'enfance. Et donc, ce qui s'est passé avant, et là, on va faire un petit détour par l'enfance, c'est très déterminant pour l'adolescence. C'est-à-dire, c'est pendant son enfance qu'on va construire ce sentiment de confiance qu'on a en soi, dans les autres, et tout se fait beaucoup en miroir. Et la confiance, c'est une co-création, ça ne vient pas sur vous, c'est aussi, ça se construit au travers de l'échange avec les autres. Ouais. Donc on s'est construit dans cet échange, et c'est là qu'on va construire un peu notre socle de sécurité, avec notamment ce qu'on sait maintenant sur l'attachement, vous savez, tous les êtres vivants supérieurs, y compris les animaux, s'attachent, ont un besoin. C'est très lié, bien sûr, comme tout, à la chimie cérébrale. Hein. La vie, c'est de la chimie. Hein. Il faut quand même... On a beau ne pas aimer la chimie, mais la vie, c'est ça. C'est des molécules qui s'associent. Et notamment, la production d'ocytocine, on le sait bien, c'est ce qui crée l'attachement. Hein. Et au moment de l'accouchement, il y a un rush d'ocytocine dans les relations amoureuses, les rapports sexuels, alors plus ou moins selon les individus, mais ça va jouer dans leur capacité d'attachement, plus chez les femmes que chez les hommes. Les hommes produisent moins d'ocytocine. Bon, il y a eu d'ailleurs des recherches à Lausanne d'un des collègues, alors il suffit que je le cherche pour que son nom m'échappe, mais enfin il va revenir, et certains d'entre vous le connaissent, qui a fait beaucoup d'études sur justement l'attachement, qui est très connu dans le monde, et qui avait montré aussi que chez quel animal, c'est pas le rat des champs, mais enfin il y avait le mulot des montagnes ou le mulot des champs, donc il y en a un qui produit de l'ocytocine et il est fidèle, il y en a un qui n'en produit pas et il court après tout le monde. Voilà. Alors vous voyez, alors nous on n'est pas des mulots, d'accord, mais c'est un peu plus compliqué, mais ça joue. C'est-à-dire, ça va jouer dans cette disposition qui fait que, bon, ben celui qui a beaucoup d'ocytocine, il a le premier rapport avec et puis il s'attache. Et puis il va chercher à retrouver ses odeurs, ses machins, tout ce cadre attaché à la personne qui a déclenché ce sentiment de bien-être comme une drogue, presque. Bon, qui va chercher à retrouver, alors que l'autre, il déclenche pas grand-chose et voilà, bon, il va courir un peu où il peut. Donc, oui, il y a des phénomènes comme ça aussi très, très basiques qui vont nous construire. Alors, l'attachement, et l'attachement, il va dépendre, bien sûr, de nos ocytocines, mais aussi de la qualité, bien sûr, des relations avec notre environnement et du degré d'anxiété de ceux auxquels on s'attache, parce que c'est très contagieux, l'anxiété. Il n'y a rien de plus contagieux. Donc, l'attachement, il y a les attachements sécures et puis les attachements plus insécures. Et l'attachement insécure, dès que l'objet d'attachement s'éloigne, il y a la peur de le perdre. Si on est sécure, eh bien, on dit, il s'éloigne, voilà, il va revenir. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un raisonnement, c'est un état émotionnel. Et on voit très bien dans toutes les études expérimentales, il y a des enfants, très tôt, la mère s'éloigne, ce n'est pas un problème, parce qu'il a confiance. Et d'autres, dès qu'il ne la voit plus, c'est comme s'il la perdait. Parce qu'il n'arrive pas à avoir la sécurité intérieure. Ce n'est pas un choix. Ça s'impose à lui. Donc la première, là, de l'enfance, une des grandes rôles de l'enfance, ça va être de construire notre sentiment de sécurité et de confiance en nous. Et là, très rapidement, bon, c'est un peu complexe, mais c'est quand même les grandes lignes en sont simples. C'est plus simple qu'on ne le croit. Bon, c'est pas très intellectuel, c'est très basique, c'est très émotionnel, la confiance. Et qu'est-ce qui va faire qu'un enfant ait une confiance? Confiance qui va lui permettre justement de former son regard sur le monde et de faire qu'il va voir le monde, le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Vous voyez, les philosophes, malgré toute leur position et leur production, n'ont jamais résolu la question de savoir si le verre était plutôt à moitié plein ou à moitié vide. C'est pas une question de raisonnement, c'est un regard émotionnel, mais qui change. Et dans mon expérience, on a tendance à s'autoconforter dans sa vision. C'est-à-dire, ceux qui le voient à moitié vide ont vite fait de se renforcer dans leur sentiment qu'il est bien vide et que le monde est vraiment comme ça, et les autres aussi. Et c'est plus facile d'ailleurs de le vider que de le remplir. Mais enfin, voilà, ça dépend beaucoup. Et ce n'est pas une vérité, c'est un état d'esprit, mais qui conditionne beaucoup de choses. Vous voyez, dans la capacité d'avoir confiance, dans la capacité d'entreprendre, qu'on oublie. Et tout le monde a tendance à penser que pourquoi les autres ne sont pas comme moi? Moi, je ressens les choses comme ça, c'est la normale, ça, c'est normal de sentir les choses comme ça. Pourquoi ils ne ressentent pas? Mais non, on ne ressent pas les choses tout à fait pareil. Alors, les gens qui ont de la volonté, ils disent, mais il n'y a qu'à avoir de la volonté, mon vieux, hein, et de la volonté. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont envie d'avoir de la volonté? Ça ne se pose pas la question. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir envie d'avoir de la volonté. Ça ne leur parle pas. Et d'autres, mais il suffit de vouloir. Alors oui, ils vont faire des efforts, mais parce qu'ils sont motivés pour le faire. Alors, ça se construit là aussi, c'est une chose qui se co-construit comme tout le reste, mais plus ou moins. Et il y a des tempéraments plus énergiques que d'autres. Ce n'est pas uniquement une question, voilà, de « il suffit de vouloir », mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vouloir? Et c'est cette envie de vouloir qui fait que de faire de vouloir, ça vous entraîne. Mais c'est aussi un état émotionnel, bon, mais qu'on cultive plus ou moins. Donc, pendant l'enfance, on va construire cette confiance. Et l'enfant donc, va voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et bien, en fonction beaucoup de l'environnement, de son tempérament. Vous savez bien, enfin, surtout les femmes, que même quand on a eu plusieurs enfants, ils n'ont pas tous au départ la même capacité d'entrer en contact. Il y a des enfants qui rendent les parents parents très vite. D'abord parce qu'ils sont faciles, ils sont plutôt rigolards, ils ne sont pas toujours en train de gueuler pour un oui ou un autre, ce qui est très angoissant pour des parents et ça va les tétaniser un peu. Ils rient, puis ils sont contents de vous voir. Bon, on dit, mais il est formidable celui-là. Pour une fois qu'il y en a un qui m'apprécie vraiment. Donc, on se sent, vous voyez, très... Bon, tout de suite, ça vous motive, on a envie de... Le parent aussi fait, l'enfant fait le parent aussi. Vous voyez, cette co-construction d'ensemble. Il y a des enfants, c'est plus dur. Parce qu'ils pleurent, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils se réveillent, parce qu'ils ne sont jamais contents. Et c'est angoissant, c'est anxiogène. Ce n'est pas qu'on les aime plus ou moins, mais ça n'a pas le même effet, vous voyez, Alors, si on a un assez bon tempérament et des parents qui sont adéquats, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de l'enfant sans les devancer. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'ils donnent à l'enfant le sentiment qu'il est créateur de son monde. C'est ça la vraie toute-puissance. Ce n'est pas la toute-puissance de ce soi-disant enfant roi qui, dès qu'on le contrarie, se roule par terre. Celui-là, il est complètement impuissant. C'est-à-dire, dès qu'il a une contrariété, il se désorganise. Ce n'est pas une force. Il faut arrêter de dire c'est un enfant roi. On le fait roi en cédant à tous ses caprices. Mais lui, il est esclave. Comme beaucoup de tyrans, ils sont esclaves de leurs émotions. Et si ça ne se passe pas, ils rentrent dans des rages, ils se désorganisent, sont capables de toutes les bêtises. Ce n'est pas une force. La force, c'est de pouvoir en prendre et à laisser, de pouvoir choisir. Ouais. Bon, donc l'enfant, Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va trouver que le monde est bien fait? Ben, c'est que la mère est adéquate. Voilà, la mère, ça peut être le père, je n'ai aucun préjugé contre ça. Mais il faut qu'il y ait une personne, une continuité. C'est pas on va se la passer à tour de rôle, l'enfant. Ouais, il y a un temps dans les kibbutz, ils avaient voulu justement, pour limiter cette histoire d'attachement, faire que les enfants n'étaient pas pris en charge par leur mère. Ils les voyaient que le week-end, c'était toujours des nurses qui changeaient. Ils ont vite arrêté en comprenant les dégâts que ça faisait. Oui, l'enfant a besoin d'une continuité, ce qui ne veut pas dire une exclusivité, mais une continuité dans ceux qui s'occupent de lui, parce qu'il va se construire là aussi en miroir. Ça va lui donner le sentiment que lui, il est une personne continue, parce qu'il y a un environnement à peu près stable, et notamment un environnement relationnel. Alors, voilà, il va très vite apprendre que ben, le monde est bien fait. On a mal au ventre, on a faim, on a les fesses mouillées. Tu gueules un peu, il n'y a pas besoin de crier énormément. Et tu entends une voix, toujours la même, plutôt sympa, qui dit « voilà, voilà, j'arrive ». Il dit vraiment, c'est pas tant le monde. C'est un pouvoir, tout le monde te met. Et qu'est-ce qu'il est content, donc il est sécure. Et puis il dit « c'est pas la peine que je hurle pendant trop longtemps. Il suffit que j'entende « voilà, voilà ». Et puis là, je peux attendre. Et ça, c'est le début de la liberté, la capacité d'attendre, ouais. Ça, c'est ça qui fait la liberté. Et c'est ça que n'a pas justement l'enfant roi, soi-disant roi capricieux. C'est qu'il ne peut pas attendre. Sans quoi? Sans être mal. Ce n'est pas qu'il a un plaisir d'embêter les autres. C'est qu'il est mal dès qu'il attend parce qu'il n'a pas confiance. Au fond. C'est comme si tout d'un coup, voilà, le monde s'obscurcissait. C'est la tempête, c'est insupportable. Bon. Donc, tandis que l'autre, il dit « sois tranquille ». Bon, il a dit « elle va venir ». Donc pendant ce temps, ben, j'utilise mes capacités. Et j'ai l'impression que c'est moi qui suis créateur de mes jeux, de mes babillements, de sucer mon pouce, de puis au fur et à mesure que je grandis, de faire des choses. C'est moi qui suis capable de faire ça. Alors qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, si l'environnement ne l'avait pas porté, eh bien, on a le contre-exemple, les enfants carencés, abandonnés. Les enfants qui étaient mis dans des orphelinats où toute personne ne s'occupait d'eux, où on pouvait les laisser pleurer des heures. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Dès qu'ils sont un peu seuls, ils sont obligés de s'auto-stimuler. Ils ne sont pas en train de jouer ou d'inventer ou de penser. Non, ils s'auto-stimulent, ouais, de manière mécanique, en se balançant comme ça. On connaît ces enfants qu'on va retrouver dans certains troubles psychiatriques, ce balancement stéréotypé où ils vont se taper la tête contre les bords du berceau, se donner des coups de poing, s'arracher les cheveux. Tout ce qu'on va voir revenir un peu à l'adolescence, hein, dans cette propension à s'auto-attaquer comme un substitut de la relation. Donc on voit que la vie, c'est une co-construction permanente, c'est un échange permanent. Quand il ne se fait pas dans la confiance et le plaisir, il se fait dans la destruction. On retrouve ce que je disais tout à l'heure, créativité, destructivité. C'est là dès l'origine, je crois. Et ça, on l'a chez l'animal. Les animaux au zoo, quand ils sont seuls ou carencés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourner en rond comme ça. Et ils vont commencer à se gratter, à s'égratigner, à se faire du mal, C'est que maintenant, dans certains pays, on interdit d'acquérir des hamsters, enfin, il y a des rats, sans qu'ils soient en couple. C'est interdit. On est punissable de. Parce que pourquoi? Parce que la solitude les détruit. Bon. Et qu'en effet, ils ont des carences, ils se font du mal, et puis ils peuvent finir par en mourir. Donc, vous voyez, on est, comme l'animal aussi, donc programmé par cette nécessité de l'échange. Quand il se fait bien, eh bien, voilà comment naît ce sentiment de confiance. Et voyez bien comment une mère, par des voies totalement différentes, une mère ou un père, je dis quelqu'un qui s'occupe de l'enfant, bon, donc de manière régulière, eh bien, si cet enfant, si cette mère est imprévisible, c'est-à-dire que tout d'un coup, ben non, elle ne peut pas s'en occuper parce qu'elle est en train de se farder, qu'il va gueuler pendant une heure et que ça ne va pas venir. Que l'autre fois, c'est parce que, elle dit tout d'un coup, ben moi j'ai faim, toi tu as sûrement faim aussi. Allez, tape un peu, je te le prends, je te réveille, je te fais manger. Bon, alors une fois, ce n'est pas grave, deux fois non plus. Si c'est comme ça, imprévisible, vous voyez, l'imprévisibilité. Ce qui est rassurant, c'est de la répétition, c'est de retrouver des choses. C'est pour ça que les enfants aiment bien les comptines, qu'ils aiment bien qu'on raconte le même conte toujours, tous les soirs, parce que ça les aide à construire quoi? Une sécurité. Bon. La répétition, c'est aussi une forme de sécurité. S'il y en a trop, c'est un enfermement. Bon, faut toujours doser les choses. Mais c'est important qu'il y ait ce sentiment de continuité. Et donc par des voies très différentes, une mère trop anxieuse qui est tout le temps en train de dire « si moi j'ai faim, donc lui il a faim », ou celui, celle qui s'en occupe pas du tout et le laisse pleurer, va avoir le même résultat d'un enfant qui s'encoît à son impuissance. Je peux crier pendant une heure, ça va. Une autre fois, au bout de 5 minutes, ça va venir. L'autre fois, il faudra 1h30. Ben, il est insécure. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas fiable. Ouais. C'est des choses assez bêtes. Et là, il faut rappeler une chose, je crois, importante. C'est quand même la grandeur, j'allais dire, de je fais exprès d'employer ce mot, vous voyez, de l'extraordinaire monotonie de la vie quotidienne. Voyez. Il faudrait qu'on en parle un peu plus, parce qu'on parle beaucoup de « étonnez-moi, Benoît », voyez, il faut étonner les enfants, il faut faire des choses extraordinaires, il faut... C'est bien, c'est très très bien, mais sur un fond de tranquillité, de stabilité. Un enfant, ce n'est pas fait de l'amener pour l'amener jusqu'à 11h du soir dans le restaurant, parce qu'on a envie de sortir, et qu'alors on peut le faire une fois, bon, c'est pas... C'est pas en disant ça va lui l'ouvrir au monde, il va entendre, il est avec nous, il peut pas être mieux. Non, il est crevé, il aura envie de dormir. Donc c'est pas, il faut tenir compte de ses besoins. Si c'est ça l'aimer, c'est pas simplement toi je t'aime donc tu fais tout ce que je fais. Non, parce que justement je t'aime. Il faut tenir compte de ses besoins spécifiques. Ils ont besoin de régularité. Ouais. Et ça toute la vie, ça sera important. Et on sait aussi par rapport à des petits enfants combien leur offrir, le repas, les petits trucs qu'ils aiment bien, une petite attention. Ça leur donne une confiance. Donc la vie quotidienne, voilà, elle est quand même très monotone et c'est pas marrant d'assurer non plus, pas uniquement cette continuité d'être là tous les jours. Alors pas forcément la même personne, il peut y avoir une aide, c'est pas, il y a une souplesse, une adaptation, mais quand même il y a une continuité minimale suffisante et ça on en prend pour 20 ans quoi à peu près. Alors il faut assurer. Bon. C'est ça qui construit la fiabilité. Ouais. Et la confiance. C'est-à-dire, c'est un monde qui a une certaine, qui a une sécurité. Bon. Et alors là-dessus, après, il ne faut pas que ça devienne un enfermement, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir. Et parce qu'on a une sécurité, eh bien, on va, comme l'enfant sécure, qui peut quitter sa mère sans que ce soit une perte, il faut l'ouvrir au monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est la crèche, c'est l'école, qui a un contrepoids extrêmement important à la famille, parce que plus quelqu'un est important, plus il y a besoin qu'il y ait du tiers. Pour pas que cette importance devienne une excessive dépendance. C'est parce que les parents sont importants qu'il ne faut pas qu'ils soient là de trop. Voilà. Quand on est très important, il ne faut pas que ça devienne une indigestion et que ça vous gave. Bon. Donc, et qu'ils ne peuvent pas faire tous les rôles et que les parents, ils n'ont pas à être à l'école non plus. En même temps, enfin, on en parlera, c'est très bien qu'il y ait des liens, qu'ils comprennent le sens de l'école, mais il faut qu'ils passent la main. Et non pas, t'entends, je peux t'appeler à tout moment sur ton portable. Non, 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 c'est pas un signe d'amour, c'est un signe d'inquiétude. Ça n'empêche pas l'amour, mais c'est l'inquiétude. Et ça, il faut le comprendre. Et là, il y a quelque chose qui est un peu un modèle pour la vie future et pour l'adolescent, que je prends comme, qui m'est apparu comme ça, c'est pas une vision, mais c'est une déduction quand même progressive, que ce qui était important, un peu comme modèle pour comprendre un peu une problématique humaine générale, c'est l'enfant de 2 ans qui se cramponne à sa mère plutôt que d'aller au lit ou d'aller à la crèche. C'est pas qu'il aime plus ni moins sa mère que celui qui y va. C'est qu'il a peur. Ouais. C'est pas par amour qu'on se cramponne. Hein, ne part pas, ne part pas, ne part pas. C'est qu'il y a une inquiétude. Ça n'empêche pas d'aimer. Quelquefois, ça vous donne l'impression d'aimer vraiment parce que tu es indispensable. Mais vous voyez, c'est pas parce qu'on mourrait de faim si on mangeait pas qu'on aime particulièrement telle ou telle nourriture. Hein. C'est plus du même ordre. Bon. Donc, encore une fois, ça n'empêche pas l'amour, mais ne confondons pas. Seulement lui, l'enfant qui a peur, s'il pouvait parler quand il accrochait à ses grippes et à sa mère, ben, il vous dirait, attendez, ça c'est bien des idées de psychiatre encore. Là, vous êtes un peu complètement ravagé. Enfin, écoutez... qu'est-ce que vous allez chercher la petite bête? Pourquoi voulez-vous jamais embêter tout seul dans mon lit ou avec ces crétins à la crèche alors que j'ai la plus belle femme du monde pour moi? Et qu'elle n'est pas loin de penser que pour une fois qu'il y en a un qui tient à elle, elle est peut-être prête de le lâcher. Alors, laissez-nous en paix, vivre notre relation. Symbiotique, quand même. On y a droit. C'est notre choix. Mais non, ce n'est pas un choix. Comment on le sait? Parce que si on veut le séparer, il hurle. Il pourrait dire, bon, je préfère. Non, il hurle parce qu'il a peur. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas sécure, tout ça. C'est comme s'il allait le perdre après. Voilà. Alors, quelle est la bonne mère? Vous voyez, là, on va y penser, ça va se retrouver à l'adolescent. Celle qui va lui dire, mon pauvre petit, Si tu savais d'ailleurs comme le monde est mauvais, tu aurais encore plus peur. C'est ce qui n'est pas faux en soi. Bon. Ou celle qui va lui dire, c'est pas une question de vérité là encore du regard, bon. Mais ça va aider votre enfant à prendre confiance en lui. Ou lui dire, écoute, pourquoi t'as peur? D'abord s'interroger. Vous voyez. Quand un enfant a peur, c'est pas de dire, ah ben comme je te comprends. Ça veut dire que donc la peur, elle est justifiée. Et pourquoi t'as peur? C'est pas non plus t'as pas avoir peur, ferme ta gueule et puis c'est tout. Non. Vous voyez, il y a des intermédiaires. C'est, j'entends que tu as peur, mais pourquoi? Rien que de dire pourquoi, ça veut dire que c'est pas évident. Le danger, moi, je ne le vois pas. Mais j'entends peut-être que tu dis, allez, vas-y, assis, je sais pas, j'ai rien dit, je sais pas. Mais j'ai peur. Bon. Oui, j'entends, mais tu vois, moi, j'ai pas peur. Même si à ce moment-là, je suis pas bien, même si je me sens seul, même si je suis dans une phase où je suis déprimé, ça c'est aimé. Pour lui, je lui dis, mais non, moi j'ai pas peur. Tu vois, on va faire un gros câlin, on va faire un jeu, on va te donner quand même quelque chose, et puis maintenant tu vas aller au lit. Et puis on va t'amener à la crèche. Et si jamais il y a un tiers, là encore, qui passe, c'est toujours utile le tiers, et notamment si c'est le père. Alors pour une fois qu'il est là, on l'attrape, et on est en, lui dit, mais tu l'amènes à l'école. Pourquoi ça marchera mieux avec le père? Parce qu'il n'y a pas la même dépendance affective, c'est tout. C'est pas parce que la mère est bonne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est les personnes dont on attend le plus, vis-à-vis desquelles on va être le plus en revendication, à la fois d'attachement, et puis cet attachement vous est insupportable parce qu'il vous enferme, donc on lui en veut, on la repousse, mais si on la repousse, on n'est pas bien. Et alors ça, l'adolescence, ça va exploser. Et alors l'enfant qui, justement, a pu apprendre comme ça, accompagné, que quand il était au lit, finalement, il dormait, il était bien, et que le lendemain, il était tout content de revoir sa mère, que finalement, c'est très agréable d'avoir des copains à la crèche, et que mais finalement, il va voir la mère, non pas parce qu'il a peur, mais pour le plaisir. Mais là, il a trouvé une vraie liberté. Ça, ça va l'aider à passer l'adolescence. Alors que l'enfant qui est dépendant de la mère, tant qu'il a 2-3 ans, ça va à peu près, plus il va grandir, plus ça va être insupportable. Et à l'adolescence, il ne va pas supporter de sentir qu'il est comme un petit bébé qui ne peut pas se séparer de sa mère. Alors qu'un des compromis tout simples, ça va être d'aller mal. Parce qu'en allant mal, ce n'est pas qu'il se le dit, ce n'est pas volontaire, c'est automatique. Il va grogner, il va être insatisfait, il va être... Et puis en allant mal, eh bien, il attire l'attention. Mais comme ce n'est pas pour le plaisir, il ne se sent pas un bébé, il se sent indépendant. Ouais. Parce que si c'est en plus pour avoir du plaisir avec maman, ça c'est pas possible, ça se retourner en enfant, c'est too much. Ouais. Mais pour aller, pour passer, de dire, voilà, je fais ma vie, sauf qu'il est resté profondément dépendant pour se sécuriser de quelqu'un. Et qui peut plus tellement supporter, en effet, d'être dorloté comme il était, parce que ça, il retrouve ses contradictions. Il a besoin qu'on s'occupe de lui et il supporte pas. Et ça, on va le voir dans ces difficultés de maniement de la distance qui sont si habituelles aussi à ce moment-là, hein, notamment dans l'échange de regards. Bon, ces enfants, ils rentrent de l'école, alors on se précipite. On les laisse faire. Bon, ils la rentrent, personne ne réagit. Alors, c'est bien. Alors ici, on pourrait crever, personne s'en apercevrait. Bon. Et alors, on dit, mais non, tu rentres de l'école, alors viens, je t'ai préparé quelque chose. Alors, écoute, lâche-moi le paletot, j'ai déjà eu des profs toute la journée, c'est pas pour t'avoir sur le dos, là, voilà. Trop près, trop loin. Si on s'occupe pas de moi, je n'existe pas. Si on me regarde pas, je n'existe pas. Et si tu me regardes, cassez-la ma tête. Voilà. Ça va être un révélateur. Qu'est-ce qu'on voit là? L'insécurité. Mais ça va au-delà de l'adolescence. Hein. Ça nous concerne un petit peu tous. Dès qu'on est en insécurité intérieure, en quête d'une valorisation qui vienne de l'extérieur, eh bien l'extérieur devient persécutif. C'est ça la paranoïa. Il faut comprendre que les paranos qu'on dit si pénibles, ce sont des grands enfants qui se sentent abandonnés, qui sont en quête de reconnaissance, sauf que dès qu'on se rapproche d'eux, eh bien, ils sont soit dans l'abandon parce qu'on ne les regarde pas, soit si on ne s'occupe pas d'eux, on dit « tu me prends pour qui ? Je ne suis pas capable de me débrouiller, je suis voilà. » Trop près, trop loin, et qu'on va ressentir, et ça, c'est, on reviendra tout à l'heure pour essayer de comprendre pourquoi, voyez, une des clés quand même humaines, c'est qu'on va ressentir le besoin qu'on a de l'autre, comme un pouvoir donné à l'autre sur soi. Voilà. Et ça, c'est très, très, très général. Je dirais entre les groupes, entre les nations. Ouais, plus vous êtes en insécurité, vous doutez de vous. Si vous êtes assez fort, on le voit à tous les niveaux, Mais vous n'avez pas de mal à accueillir la différence, à vous ouvrir, parce que, bon, ni à réagir à la variation de la distance. On ne vous regarde pas, mais c'est peut-être l'autre qui est préoccupé. Ce n'est pas forcément par rapport à moi. Dès que vous êtes en attente, tout est par rapport à moi. En raison de cette attente, tout fait signe. Et c'est ce qu'on va trouver chez les paranos. Ça a l'air de vous embêter ce que je raconte là. Non, 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 pas du tout. Vous êtes senti presque. Bon. Vous voyez, bon, ça vous fait rire, non c'est, voilà, d'inquiétude va chercher à l'extérieur, quoi. Mais comme l'enfant de 2 ans qui a peur, il va chercher à s'agripper à quelque chose qui le rassure. Ah, ça fait signe, ah, ça, c'est machin. Et vous avez vu, il m'a dit ça, il m'a dit. Alors, ça marche dans le milieu du travail aussi, dans beaucoup, vous voyez. Il m'a dit, elle a dit, on lui a dit, je m'a dit, il m'a dit, il m'a pas dit, il a pas regardé. Tu as entendu comment il a parlé, il a fait ceci, mais il a pas dit, il a pas signalé. Voilà, donc on est pris dans ces espèces de bourdonnements, comme ça. Alors, un peu, c'est bien, quoi, c'est la vie, mais il faut pas que ça nous prenne trop la tête, quoi. Et se dire que ce qui nous prend la tête, c'est parce que la tête est ouverte. Sinon, on s'en fout. Ouais, celui qui vous indiffère, il ne vous empêchera pas de dormir. Celui qui vous empêche de dormir, c'est qu'il a un pouvoir à vos yeux. Parce que vous êtes amoureux, parce qu'il a un pouvoir hiérarchique, parce qu'il a des connaissances que vous pensez que vous n'avez pas, enfin parce qu'il a un pouvoir. Bah, mais ce n'est pas l'indifférence. C'est toujours qu'il y a derrière là quelque chose que vous valorisez. Alors de le reconnaître, voyez, ne va pas du jour au lendemain supprimer ce qui est une émotion, cette attente. Hein, et ce sentiment que l'autre est en train de vous envahir, c'est une émotion, c'est pas une affaire de logique. Donc, il suffit pas de m'entendre pour dire, mais j'avais pas compris ça, maintenant que j'ai compris, ça va, c'est parfait. Non, parce qu'émotionnellement, ça continue à vous triturer. Et que tout d'un coup, vous commencez à vous endormir. Oh, il m'a dit ça. Oh, il a fait une allusion comme ceci, etc. Bon. Oh, il va m'abandonner. Ou il va, voilà. Et ça va vous réveiller en état de stress. Parce que vous êtes dans une attente à l'égard de cette personne. Et que plus vous avez douté de vous, plus l'attente risque d'être forte. Donc, vous voyez cette histoire qui se construit, cette confiance dans l'enfance, cette base de sécurité qui va s'affirmer par l'ouverture au tiers, qu'est l'école, par l'ouverture après le jeu entre le père et la mère. Bon, mais là aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, on a extrêmement insisté sur cette importance du père et de la mère, et c'est important. Mais voilà, la plasticité humaine est importante et le tiers, ben c'est plutôt bien que ce soit le père et la mère. C'est plutôt bien. Ça dépend comment ça se passe. Parce que c'est plus un tiers si on va dire, attends, c'est ton père qui arrive, tais-toi, tu m'en parleras tout à l'heure, voilà l'ours qui arrive, attention, il est dangereux. Ouais, il fait semblant de... Bon, ben, le rôle tiers, voyez, moyen. C'est pas tant le tiers que la partie mauvaise, ouais. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a un père, une machin, que ça va beaucoup mieux. Hein. Ça dépend du climat émotionnel, je crois, très profondément. Et ce qui peut faire tiers, ben c'est au fond ce qui fait tiers pour l'un des personnages, le père, la mère. C'est-à-dire la valeur qu'il accorde à d'autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui la finalité de l'enfant. Et de dire, mais il y a d'autres personnes, il y a des grands-parents, il y a des amis, il y a des ceci, il y a des cela. Bon. Alors, encore une fois, le mieux, c'est que ce soit les deux géniteurs. C'est ça qui est une situation. Mais la capacité humaine, on l'a bien vu dans les monoparentales, c'est pas parce que l'enfant n'a pas le père qu'il ne va pas se construire et que ça dépend comment c'est vécu. S'il y a place dans la tête de la mère pour, en effet, le père tel qu'il a été ou pour un autre, ça va être important. Beaucoup plus que si on est dans un couple en train de se persécuter, t'as vu ce qui est, et que l'autre est le représentant du diable, c'est-à-dire du même en mauvais. Ça fait plus de tiers. Bon, on pourrait y revenir dans la discussion. Mais vous voyez donc que les choses sont à la fois assez ouvertes et qu'on a tendance, parce qu'on aime se rassurer, à se fixer des choses intangibles, c'est-à-dire non plus symboliques, à mon avis, mais fétichiques pratiquement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le père, voilà, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Bon. Ça peut s'organiser, c'est un problème, ça dépend comment on va le traiter. C'est-à-dire que l'être humain a une capacité de créativité considérable. Alors tout ça, donc, on se construit dans l'enfance, et va arriver la puberté, et bien évidemment, ça va, comme je disais tout à l'heure, remettre en cause, un peu, mettre à l'épreuve cet héritage. Et plus vous y arrivez avec une confiance, une sécurité, une estime de vous-même, un sentiment que vous avez une valeur, que ceux qui vous entourent, certes, ils vous cassent les pieds par moments, mais vous les aimez, et puis vous avez confiance, et le positif l'emporte. et qu'on peut justement s'engueuler ou sans que ce soit le drame, c'est pas sans que ce soit tout de suite la catastrophe, où on peut avoir des conflits sans qu'on soit rejeté. Ouais. C'est un climat émotionnel qui est important. Et en gros, ça va se passer bien, surtout dans notre société beaucoup plus ouverte, où dans l'ensemble, les adolescents, je pense, vont, à un certain point de vue, mieux qu'ils n'ont jamais été. Bon. Et que dans ma génération, sûrement. Parce que tous ceux qui étaient ratatinés un peu par la peur ou écrasés par un certain nombre de contraintes, il ne faut pas idéaliser le passé. Bon. Il faut pas non plus le diaboliser, mais il ne faut pas l'idéaliser. Et là, dans le climat de liberté plus grand actuel, la plupart des adolescents vont bien. Bon, oui, il y en a toujours autour de 20%, 25%, ce n'est pas négligeable, qui ont des difficultés, 10% qui ont des maladies psychiatriques, pour des causes où la biologie entre en compte, on pourra en parler. D'accord, mais c'est pas... Bon. Et donc, dans l'ensemble, ils vont bien. Mais alors, justement, on est tellement habitué à parler de l'adolescence comme d'une épreuve, sinon une maladie, qu'on voit des parents qui vous disent « Tout va bien à la maison, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Ouais, » bon. Non, le meilleur traitement, c'est d'aller bien. Ouais. Et en même temps, ça ne veut pas dire... D'aller bien, c'est pas non plus se cacher les choses, idéaliser trop. Bon, mais c'est déjà un acquis. Ils savent que c'est possible. Et ce qui est important, c'est de se nourrir. Voilà. Je crois que fondamentalement, il faut comprendre que, en gros, comme tous les êtres vivants, l'être humain a besoin de se nourrir de l'environnement. Un être vivant seul, ça n'existe pas. Pas seulement pour des raisons de système, mais pour des raisons de construction. Le vivant, c'est un échange permanent. Le minéral, il échange peu. Le vivant, ce qui fait le vivant, c'est qu'on est tout le temps en train de se nourrir de l'extérieur. C'est les Shaddock. On est en train de pomper entre des circuits appétitifs qui prennent ce qui est bon et aversifs qui rejettent le mauvais. Sur le plan biologique, nous respirons, on reprend l'air, on le rejette, on prend là-bas l'oxygène, on rejette le truc chargé de gaz carbonique, etc. Bon. Tout est comme ça, mais psychologiquement aussi. Nous n'existons pas tout seuls. Nous n'existons que par rapport à quelqu'un qui va être le révélateur de nos potentialités, le co-créateur de ces potentialités. C'est pour ça que les rencontres ont un rôle important. La qualité des rencontres qu'on va avoir avec ses parents, avec ses amis, qui vont voir les professeurs, qui on va rencontrer adolescents, les relations amoureuses, ça vous révèle à vous-même. C'est tout un aspect de vous qu'on ne sait que dans la relation, qu'on va découvrir en réussissant, en faisant des épreuves, dans tous les domaines. Ouais. On se révèle, on se crée en permanence. Ouais. C'est une dynamique. Et on est trop souvent dans des points de vue trop structuraux, trop parce que ça nous rassure. Voilà, on dit c'est bien, c'est fixe. Non, c'est un mouvement. C'est pas fixe. La vie, c'est un mouvement permanent. Bon. Alors, donc l'adolescence, eh bien, elle va, comme je disais tout à l'heure, remettre en question, et on pourrait voir, on pourrait la comparer, et moi maintenant, ce que m'a appris un peu ma pratique, c'est qu'au fond, on a tout intérêt, je crois, à considérer, à regarder ce qui se passe pour l'animal, et que l'animal, les animaux les plus proches de nous, les animaux supérieurs, sont programmés pour défendre leur territoire, et pour sauver la vie. La vie, elle est organisée pour se perpétrer, elle n'est pas organisée pour mourir. Et quand elle s'épuise, eh bien, c'est la procréation, c'est la division cellulaire. Et pour quelle raison, ça, la question reste entière. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Une fois que la vie est apparue sur Terre, enfin, eh bien, elle s'est organisée pour se perpétrer. Et par justement la reproduction à tous les niveaux. Et nous participons de cette perpétration. Et que les animaux sont programmés pour, quand il y a une menace sur leur territoire, ils éprouvent des émotions primaires, en gros l'agressivité, la peur, s'offrir en se couchant, qui vont aboutir à quoi ? À sauver la vie. Hein ? Et à permettre de surmonter les difficultés en étant actif. C'est-à-dire, je suis menacé, j'ai des émotions qui vont me pousser à agir. Hein ? Aussi bien en bagarrant si je suis le plus fort, qu'en fuyant si je sens que je perds le... Mais j'agis, voilà. Nous sommes programmés pour agir. Et je crois qu'on a tout intérêt à penser que l'homme, l'être humain, il a un territoire. Mais un territoire beaucoup plus complexe, qui n'est pas seulement géographique. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, combien les variations de distance, trop près, trop loin, sont importantes dès qu'on est un petit peu vulnérable. Hein. Vous savez qu'on peut tuer. Pour un regard, il m'a traité, Il m'a regardé, il m'avait vraiment. Il s'approche de moi, il lève le menton comme ça, il est. On est comme l'animal, si on arrive avec quelqu'un qui vous dit alors, qu'est-ce que tu me veux? Et aussitôt, vous sentez menacé, vous allez réagir, vous allez. Bon. Mais notre territoire, il est devenu exponentiel du fait, je crois, de ce qui caractérise l'être humain, c'est que nous sommes les seuls êtres vivants, et finalement conscients, d'être conscients de nous. C'est pas la parole, c'est pas le langage. Les animaux ont un langage. Ils ont des représentations. Vous n'avez qu'à voir votre chien, quand il rêve, vous voyez très bien qu'il n'y a peut-être pas le lièvre, mais lui, il le voit dans sa tête. Donc il y est là. Hein. Il a de la mémoire. Ils ont un inconscient. Vous savez très bien qu'un cheval peut passer 10 ans après un endroit où il a eu peur et faire une embardée, simplement parce qu'il revoit le contexte. Bon. À la grande surprise de son cavalier, quelquefois à son grand dommage. Bon. Donc, vous voyez, il n'y a pas des différences aussi grande que ça. Et pourtant, il y a une différence radicale que nous sommes conscients d'être conscients de nous. On sait que les animaux éprouvent des émotions, que les animaux supérieurs, ils ont une conscience, ils anticipent, ils peuvent créer des outils, mais ils ne peuvent pas se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils font sans pouvoir se dire, mais tiens, je suis en train de créer un outil. De dire, de le penser, même pas besoin de la parole, de penser, je me vois faire quelque chose. Alors on peut penser, je passe rapidement, que c'est au fait que nous avons développé un lobe frontal énorme, donc que l'enfant va naître aussi avec une grosse tête, hein, vous voyez, qui ne peut pas tenir, d'ailleurs, comme ça, pour ça qu'il faut tenir le cou, parce qu'il risque de se casser le cou d'ailleurs, hein, et puis qu'il est débile moteur pendant 2 ans, il va être incapable de tenir debout, contrairement à même à nos cousins des bonobos qui sont les plus débrouillards là-dessus, mais qui ont un petit cerveau encore. Hein, presque le tiers, de petit lobe frontal, à peu près le tiers de l'être humain. Et là, on a construit. Enfin, la nature a construit la mutation génétique, nos OGN à nous ont construit un cerveau qui a développé des capacités de contrôle des structures sous-jacentes. Et probablement que c'est ça qui a permis à cette réflexivité d'apparaître, auquel d'ailleurs les 2/3 du monde ne veulent pas penser, parce que c'est un peu effrayant de dire qu'on est conscient d'être conscient de nous, c'est-à-dire qu'on est seul. Bon. Et que beaucoup vont dire, non, tout est écrit dans le ciel, tout est prévu, tout n'avait pas, leur comportement ne correspond pas tout à fait à ça, mais enfin, il n'empêche qu'ils pensent, qu'ils ont besoin de penser que tout est écrit, rien n'arrive de on n'a aucun pouvoir personnel. Bon. Ben si, et ce pouvoir, ben, il nous renvoie à quoi? Une solitude aussi. Et je crois que le fait d'être conscient de soi, il y a 3 conséquences que je veux évoquer quand même rapidement, qui me semblent essentielles pour comprendre, c'est que nous sommes des êtres d'addiction. L'addiction, c'est pas uniquement le monde moderne, c'est que l'être humain, à partir du moment où il est capable de se voir, qu'est-ce qu'il va voir? Mais qu'il pourrait avoir plus que l'autre, ou qu'il a moins. Ça, c'est notre problème, c'est pas celui de notre chien, qui pourtant a un grand appétit. Alors s'il n'a pas à manger, il va prendre celui du voisin. Et même l'écureuil, qui est connu pour son côté cumulard, eh bien, il va faire sa provision de cacahuètes, de noisettes. S'il n'en a pas, il va aller les voler. Mais il n'est pas en train de dire, elles ne sont pas plus grosses, celles d'à côté, là, elles ne sont pas plus belles. Elles ont gardé leurs feuilles, non, il ne peut pas. Bon, il n'y en a pas, il va prendre. Nous aussi, parce qu'on se voit, eh bien, on sait qu'on pourrait avoir plus, que d'autres ont moins, et qu'on va tout perdre parce qu'on va mourir. Pas tout à fait neutre, quand même. Et je crois que cette conséquence nous pousse à ce que, pour moi, l'addiction première, c'est cette créativité humaine qui nous pousse à chercher pourquoi on est sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis que l'homme a commencé à développer cette activité réflexive, il y a quelques milliers d'années, eh bien, on voit bien qu'il a fallu qu'il trouve un sens à sa vie, qu'il cherche. Et cette recherche, qui maintenant passe par la science, on ne l'arrêtera pas, et tant mieux. Bon. Après, l'usage qu'on en fait dépendra justement créativité ou destructivité. Mais on est condamné à essayer de comprendre pourquoi nous sommes là. Et c'est une bonne chose. Bon, c'est ça, c'est un produit de la nature. C'est la nature. Bon. Mais on est devenus des dérégulateurs. Mais nous sommes un produit de la nature. Quand la nature a pu produire à un moment donné un cerveau qui est capable de réflexivité, elle a fait de ce cerveau un dérégulateur. C'est-à-dire qu'on est les seuls êtres vivants qui peuvent aller à l'encontre de leurs instincts. Oui, on peut ne pas manger, ne pas pratiquer la sexualité pour des raisons morales. On peut préférer mourir que de trahir ses copains. Mais vous voyez, parce qu'on peut créer, ben on peut détruire. Je ne comprends pas qu'on s'étonne périodiquement de dire mais pourquoi les hommes ont telle bestialité. D'abord, ce n'est pas une bestialité, parce que les animaux ne font pas, n'ont pas cette destructivité. Ils n'ont aucun mérite. Ils n'ont pas le choix. Bon. Nous, on a le choix. Et parce que vous pouvez créer, eh bien, vous pouvez utiliser ces instincts de manière complètement désordonnée. Ça va dépendre de vos valeurs. Donc on est devenu dépendant, d'une part de cette réflexité, toujours de nos instincts pour une part, mais aussi, vous voyez, d'un miroir dans lequel se regarder. Qui d'entre nous peut se passer de ce questionnement « qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que je compte pour quelqu'un ? Est-ce que ma vie a un sens ? Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que... Bon, nous sommes prisonniers de ce miroir qu'on va rechercher dans le regard des autres. Ça, ça va être très important pour l'éducation. Pensez que la façon dont vous regardez votre enfant, c'est le miroir dans lequel il va voir sa valeur. Ce n'est pas simplement les mots ou les câlins, c'est quel regard on va porter sur quelqu'un. Donc on est devenu structurellement, l'être humain est un dérégulateur, et je dirais que c'est un générateur de valeurs. Mais que la nature des valeurs, elle, elle peut changer. C'est-à-dire les croyances, l'homme peut croire à n'importe quoi, si ça l'arrange. Et ça, c'est ce que nous montre aussi, j'y reviendrai très brièvement, la pathologie psychiatrique. Oui, on peut croire des choses invraisemblables sans être fou pour autant, parce que simplement, eh bien, on se sent mieux. Voilà. Et ça nous fait du bien. Et c'est pour ça qu'on va voir toutes ces croyances très différentes, parce qu'à chaque fois, c'est une réponse émotionnelle. Si on est mieux, c'est que c'est vrai. On trouve que c'est beau. Pourquoi c'est beau ? Parce que ça nous plaît. Donc c'est vrai, c'est beau. Ouais. Donc on est comme ça, et ça fait de nous aussi des êtres de paradoxe, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'être humain, en étant conscient de lui-même, eh bien il sait que pour être lui, il faut se nourrir des autres, mais pour être lui, il faut qu'il se différencie des autres. Alors on revient à ce que je disais tout à l'heure, comment être différent de papa-maman si je suis le clone ? Donc le problème de l'obéissance, il se complique sérieusement chez l'être humain. Parce que plus j'ai besoin des autres, plus je vais avoir l'impression que si je les écoute et je les obéis, je ne suis que leur prolongement. Je n'existe pas. Voilà. Ce qui est une erreur, c'est un paradoxe, c'est en se nourrissant des autres qu'on deviendra indépendant. Mais on voit bien cette grande tentation qui est de refuser de se nourrir, y compris d'ailleurs de nourriture, pour se sentir exister, sauf qu'on en crève. Et que l'être humain, c'est le seul enfin être vivant qui est capable de sentir que, en se détruisant, il existe. Alors pourquoi c'est comme ça ? Je crois que parce que justement, si on voit les choses comme un territoire, eh bien dès que notre territoire est menacé, donc physiquement, mais aussi dans ce que je dis, cette activité réflexive, c'est-à-dire la représentation qu'on a de soi et qu'on pense que les autres ont de nous. C'est ce qu'on appelle le narcissisme. Comment il me voit ? Comment il me considère ? Est-ce qu'il m'apprécie ? Ça, c'est notre territoire, dit narcissique, c'est notre image de nous, mais c'est une explosion, il est exponentiel. Il peut s'étendre très, 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 très loin. Notre territoire est devenu immense, ce qui fait qu'on est très vite menacé narcissiquement. Je ne suis pas écouté, il ne partage pas mon idéologie, tu ne crois pas à ce que je crois, tu ne viens pas du même village, et hop, ça suffit pour faire la guerre. Et pour se sentir menacé. Tu ne partages pas mes mêmes croyances, pourquoi tu ne fais pas comme moi, pourquoi tu... Voilà. Et puis, vous, tu ne m'as pas regardé, tu ne m'as même pas cité, mais à tous les niveaux de la vie, quoi. Hein, même bon, moi aussi. Bon, quand il y a une thèse, je vais quand même voir si mon nom y est. S'il n'y est pas, je trouve que c'est quand même fâcheux pour le candidat. Mais enfin, bon, je suis quand même un être humain, je peux, raisonnable, je peux prendre sur moi de se dire, est-ce que c'est vraiment une faute grave ou que c'est moi, mon narcissisme, qui apprend un coup. Donc, vous voyez, c'est infini, ça. Et ça va provoquer quoi ? Mais des émotions aussi basique que si on venait essuyer ses pieds sur vos coussins. Non. Je lui tends la main, il ne m'a pas tendu, mais ça peut te créer des haines indicibles. L'humiliation, c'est la pire des choses. Ouais. J'ai été humilié en public, il m'a ignoré, pas une fois il m'a cité, aucune allusion, mais ça crée des haines de 30 ans et au-delà, ça. Ça ne s'oublie pas, comme une blessure vue, c'est quoi ? Alors si on regardait, bon c'est bien d'avoir des fermetés, de réagir, mais quand je suis comme ça, je suis quand même dépendant d'émotions que je n'ai pas choisies, qui s'imposent à moi et qui me rapprochent plus de mon cabot que peut-être de l'activité réflexive humaine. C'est-à-dire, il est venu comme ça souiller mon territoire en ne me considérant pas. Alors peut-être que si on se disait ça, on se prendrait un peu moins la tête d'ailleurs pour rien et on aurait peut-être des réactions un petit peu moins passionnelles ou des vengeances un petit peu moins, voilà, qui vont entretenir ce truc-là. Et c'est ce qu'il y a de plus animal en nous, c'est-à-dire c'est ces émotions basiques qui font que si on est menacé, ben la haine va arriver, le désir de vengeance. Et le... Alors comment on va pouvoir... Donc notre territoire, si vous voulez, on peut le voir comme ce que j'appellerais moi notre homéostasie psychique, c'est-à-dire cet équilibre psychique qui fait qu'on a besoin, comme on a une homéostasie respiratoire ou cardiaque, vous avez besoin de sentir qu'on a un certain équilibre. Quoi. On n'est pas fait pour être toujours mal, angoissé, c'est une pression qui vous oblige à agir, comme si votre territoire était menacé, pour trouver une solution. Et là, il y en a en gros deux, si vous voulez, semble-t-il, c'est la créativité, y compris la passion. Et ça, l'adolescence va souvent être le moment. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien, je me sens à la hauteur. La passion, elle se nourrit pas seulement de notre... Elle se nourrit de notre sensibilité, de notre énergie, mais aussi de la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on voudrait être. Et tout d'un coup, on rencontre la personne qui vous révèle à vous-même, la relation amoureuse qui fait qu'enfin, je suis vu comme je voulais être vu. Et là, ça va être créatif. En effet, de valeur, ça va être le problème où je deviens champion de ceci, où je deviens champion de cela, où j'ai quelque chose qui va me... Bon, je me jette dans mon activité. Le problème, ouais, c'est que ça vous rend très dépendant de l'objet de la passion. Et que le risque, c'est la déception. Et ça, il faut comprendre pourquoi il y a tant de réactions paradoxales. Et justement, à l'adolescent, mais toute la vie, le grand danger, c'est que vous soyez tout d'un coup déçu. Donc, je suis amoureux et on me lâche. Bon, je réussissais bien dans tel sport et là c'est moins bien, ou j'ai des réflexions un peu critiques, et ça peut suffire pour que vous disiez, eh bien j'arrête. Voilà. C'est-à-dire que la tentation à ce moment-là, c'est cette destructivité. C'est de dire, si je ne suis pas celui que je voudrais être, alors plutôt moi être l'acteur, voyez, de ma déception que de la subir. Même pas mal, dira le petit enfant avec plein de larmes dans les yeux. Alors c'est bien d'être un peu fier, pas trop. Voilà. Parce que ça peut vous obliger à dire, eh bien, je m'en fous, je suis quitté, mais tant mieux, ça tombe bien, parce que je ne veux plus voir personne. Et puis d'ailleurs, le monde est dégueulasse, et puis tous des pourris, et puis tous des salauds. Ce n'est jamais les indifférents qui sont comme ça, c'est les grands sensibles, mais qui sont déçus. Et alors, ils vont se barricader derrière leur bunker, et en se barricadant, ils vont s'enfermer et s'appauvrir, et quelquefois devenir dangereux. Alors, on voit cet engrenage. Bon. Et ça, c'est là où les troubles psychiatriques nous le montrent, c'est qu'ils consistent tous à s'amputer d'une partie de nos potentialités dans les trois domaines qui sont nécessaires à la vie, que je disais tout à l'heure, prendre soin de son corps, se nourrir, nourrir nos compétences, développer nos compétences et la sociabilité. Dès qu'on va mal, on va se fermer dans un de ces trois champs. Tous les troubles psychiatriques... C'est un appauvrissement chez des gens potentiellement riches parce que particulièrement sensibles. Mais les troubles psychiatriques, c'est un appauvrissement, ce n'est pas un choix qui peut aller jusqu'éventuellement même au suicide pour finalement sentir qu'on est devenu acteur de sa vie plutôt que de la subir. Oui, l'être humain, il ne peut pas se créer, mais il peut se détruire. Et moi, je pense, si vous voulez, que la destructivité, c'est la drogue humaine par excellence. Parce que c'est elle qui nous donne un pouvoir. Si vous voulez passer l'examen, vous dépendez de l'examinateur. Vous ne le passez pas, mais vous êtes le chef. Et en plus, vous refilez votre angoisse aux autres. Les parents, quand tu ne passes pas l'examen, il faut passer. Mais non, soyez cool, qu'est-ce que c'est si c'est pour être au chômage, qu'est-ce que la vie enfin, tout ça, c'est peut-être pas faux. Sauf que ce n'est pas la raison pour laquelle vous le faites. Vous le faites parce que vous avez peur d'être confronté à votre insuffisance et humilié et ne pas avoir. Alors, pour ne pas l'être, eh bien, il n'y a qu'à pas le faire. Si j'ai peur d'être abandonné, eh bien, je n'ai qu'à pas nouer de lien affectif. Et ça, on va voir ces gens sensibles qui, dès qu'ils ont un lien plus fort, un peu, hop, ils rompent net, je coupe net. Parce que ce n'est pas important, non, parce qu'ils ont peur de devenir dépendants. Et pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils en ont très besoin. Vous voyez comment on devient l'acteur de ses propres déceptions. Mais en étant l'acteur, on souffre moins. Ce n'est pas qu'on soit heureux. Et je pense que c'est ça qui explique que les troubles psychiatriques... Les patients adhèrent à leurs troubles, voire en sont complices. C'est mon choix. Si je bois, ça me regarde. Mon anorexie, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Sauf que ce n'est pas un choix. J'ai jamais vu que ce soit un choix de se faire du mal. Mais on peut s'y agripper. Comme l'enfant qui a peur s'agrippe à la main de sa mère. On va s'agripper parce que là, on sait que, on le ressent comme j'ai repris un rôle actif. Ce qu'on ne tolère pas, c'est l'impuissance. Je ne peux rien. Voilà, je suis là comme un... Alors je peux rien, eh bien vous allez voir si je peux rien. Je peux me péter la gueule, et puis je vous emmerde, et puis à la limite je peux détruire ci, et puis c'est ça, et puis je suis le plus fort. C'est pas une pulsion de mort, ouais. C'est paradoxalement un acte de vie. Et je vous dis, moi je travaille beaucoup là avec des diabétologues aussi en ce moment, qui font que, là aussi, ils se rejoignent, pour ne pas comprendre pourquoi des jeunes qui ont un diabète, eh bien, ne prennent pas le traitement qui est efficace et le régime qui va leur permettre de vivre relativement bien. Eh bien, je crois que ça revient à ça. C'est pas juste d'avoir un diabète. Je l'ai subi. Je suis impuissant. Alors, où je me couche, j'accepte, j'essaie de faire alliance pour accepter les corvées des régimes et tout ça, où je me dis, mais non, moi j'existe, je suis plus fort que ça, je fais ce qui me plaît. C'est mon choix. Non, c'est une bravache qui n'est pas un choix. Mais qui vous donne un sentiment tout d'un coup que, eh bien, c'est moi qui reprends les rênes en main. Mais le prix à payer est trop cher. Voilà, parce qu'on va s'abîmer. Et tous les troubles psychiatriques, c'est ça. On n'a pas abîmé son corps. On n'a pas, si vous demandez à des filles qui se scarifient, elles vont vous dire pourquoi, ben, je sais pas, c'est pas moi, c'est plus fort que moi. Mais ça me soulage. Alors, dit, ça vous soulage? Ben, attendez, moi j'ai bon cœur, passez-moi votre cutter, je vais vous soulager tout de suite et gratuitement. Et elle dit, non, mais ça va pas. J'ai des bandes d'ailleurs, vidéo là-dessus, on les voit. Elle dit, non, vous plaisantez ou, ben, elle dit, voilà, une réaction normale. Pourquoi? Parce que vous souffrez, chérie, vous lacérez, moi, expliquez-moi ça. Alors, c'est intolérable, mais pourquoi quand c'est vous qui le faites? Voilà, quand vous êtes votre propre bourreau, ça vous soulage, et c'est vrai que ça vous soulage. Parce que vous redevenez acteur, vous avez l'impression que vous êtes plus impuissante, que cette fois c'est vous qui vous faites ça, et qu'après, dans une certaine mesure, eh bien, les autres, c'est bien fait, ils verront à quel point ils font, mais c'est moi qui décide. Mais à quel prix? Vous n'avez pas à devenir votre propre bourreau. Vous voyez comment il y a cette tentation humaine, comme ça, pour pouvoir être acteur à tout prix. Eh bien oui, si je veux prendre mes cuites, si je veux prendre ma drogue, si je veux... Mais non, personne ne veut s'abîmer. Et c'est à nous quand même là de dire, ouais, ça suffit. Alors on rejoint, je vais m'arrêter bientôt, on rejoint des questions qui étaient évoquées quand vous posant ça, c'est que... À partir de quoi on doit s'inquiéter? Vous voyez, ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette capacité humaine à se faire du mal, elle n'est pas si folle que ça. On y est tous plus ou moins confrontés, parce que ça nous redonne un sentiment de pouvoir. Le problème, c'est que le prix à payer n'est vraiment pas juste, vous voyez, parce qu'on n'a pas à s'abîmer pour pouvoir reprendre un pouvoir et pour pouvoir être bien. Ça, c'est sûr, c'est une valeur qu'on pourrait affirmer. Vous n'avez pas à payer ce prix-là, hein, parce que justement, vous le valez bien. Et non pas parce que vous avez une valeur en tant qu'être vivant qui fait que vous devez protéger ce qui est de la vie. Et, mais donc, sa chance-là, oui, donc la limite, c'est justement le côté destructeur. C'est-à-dire que c'est pas si fou que ça, de comprendre. Il n'y a pas tout de suite à dire c'est une maladie parce qu'on s'abîme. C'est un comportement que moi j'appellerais... c'est pas encore quelque chose qui est tellement développé, mais je compte essayer de le faire entendre. C'est qu'au fond, il faudrait mieux les voir comme des comportements adaptatifs. Voilà. Tous ces comportements-là, c'est une façon de répondre au vécu d'impuissance par des comportements agis qui nous soulagent, mais dont les conséquences destructrices, qui sont minimisées par les sujets, ne sont pas acceptables parce que justement, ils ont une valeur et qu'ils n'ont pas à s'abîmer pour ça. Et que nous, ça nous légitime à ce moment-là. C'est pas, c'est mal, c'est pas fait, tu es fou, t'as pas à t'abîmer. Et en même temps, oui, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce que t'as sur la main, d'accord. Tu l'as même pas choisi, on choisit pas de faire ces troubles, ils s'imposent à nous. Mais on pourrait choisir de se donner les moyens d'en sortir. Et c'est là où nous avons un rôle. À pouvoir dire, voilà, et c'est pas si facile que ça, mais on n'accepte pas que tu t'abîmes. Mais quand est-ce qu'on doit alerter? Eh bien, c'est pas de se dire quand un enfant fait même une tentative de suicide ou fait ou à ceci. C'est pas forcément pathologique, c'est toujours pathogène. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il prenne l'habitude de répondre à une menace sur son territoire, sur son homéostasie psychique, par des comportements qui l'abîment et risquent de le détruire. Donc on dit c'est pas, on peut pas l'accepter. Parce qu'encore une fois, en raison de ta valeur. Et donc, on ne le laisse pas s'enfermer. Et la pathologie, c'est quand on est enfermé dans un comportement qui s'installe comme une drogue et qui fait que vous avez de plus en plus de mal à en sortir. Bon. Mais c'est pas parce que avoir fait une anorexie, c'est pas être une malade mentale. Avoir des troubles de l'humeur, c'est pas être malade mentale. C'est pas. Il faudra qu'on sorte pour vendre ces appellations. C'est de dire oui à un moment donné. Voilà, j'ai été débordé par un certain nombre de choses qui sont très peu mentales, qui sont émotionnelles. Tous ces troubles, c'est de la chimie là aussi des émotions. Le mental, c'est la réflexivité. Mais cette chimie émotionnelle, elle fausse notre capacité réflexive parce qu'elle emporte notre conviction. Elle nous fait croire que ça va nous aider. Elle nous fait croire que c'est notre choix. C'est pas notre choix. Pas plus que l'enfant de 2 ans ne choisit quand il se cramponne à sa mère. Alors, si on arrivait à faire passer ça, je crois qu'on pourrait comprendre. Vous n'avez pas choisi d'être malade. Vous pouvez choisir de vous donner les moyens d'en sortir. C'est pas si facile que ça, encore une fois, parce que c'est une autothérapie, en quelque sorte. C'est une anesthésie. Vous souffrez moins et qu'il faut qu'on arrête. On le fait peut-être moins en Suisse qu'en France, de parler tout le temps de la souffrance de ces jeunes. Ça devient horripilant, cette histoire. Tous ces troubles, c'est fait pour pas souffrir, justement. C'est une forme d'anesthésie, voilà, qui les tient, mais qui les enferme en les tenant. Ça, c'est pas juste. Et que voir que derrière, c'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils font ça. Ce qui font qu'ils supportent pas, c'est l'impuissance. Pourquoi ils supportent pas l'impuissance? Parce qu'ils ont des désirs, des envies. Ceux qui ont peu d'envie, ils ont moins d'avantages, qu'ils auront peu de chances d'être déçus. Au moins qu'ils en profitent. Mais les autres, ceux qui sont déçus, c'est qu'ils ont des envies derrière. Et que la déception, elle va se nourrir de la force de ces envies. Et c'est ça dont il faut parler. Ce qui est le problème, c'est que derrière tout ça, si vous faites ça, si vous vous abîmez, c'est qu'il y a une sorte de fureur de vivre qui se retourne en ce qui est toujours possible de se taper dessus. Bon. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut qu'on parle de cette envie derrière. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et vous l'aider, c'est pas facile. D'accord. Mais ça vaut la peine, vous valez la peine. Donc vous voyez comment il me semble que ça peut changer le regard qu'on porte sur ces troubles et nous rendre légitimes, parce qu'un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est beaucoup de parents ne se sentent pas légitimes, et d'enseignants et d'adultes, légitimes d'imposer des limites à leurs enfants, y compris quand ils vont mal. De quel droit je vais vouloir le faire travailler? De quel droit je vais l'empêcher de faire ceci, cela? Si c'est sa façon pour lui d'exprimer sa souffrance, eh bien non. C'est un piège dans lequel il risque de s'enfermer. Et je crois que cette compréhension, la façon dont on le comprend, vous voyez, va changer notre mode de réponse. On n'a pas à laisser un enfant s'abîmer pour se sentir exister. Un enfant ou même un adulte, à la limite, mais c'est plus difficile. Et ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de savoir pourquoi on va lui dire non. C'est pas uniquement parce que ça dérangerait l'ordre social, ou parce que ça se fait pas, ou parce que c'est une marotte à nous. Non, c'est parce que c'est pas juste. Et je cite sur ce mot qui est souvent employé par les adolescents. C'est pas juste qu'ils deviennent leur propre bourreau parce qu'ils sont déçus par ailleurs, et quel que soit notre âge d'ailleurs. Mais c'est une tentation. Et on peut d'ailleurs leur dire, je vais terminer là-dessus, on peut leur dire, tu vois, vraiment, quand je te vois t'obstiner à faire ça, eh bien, quelquefois, j'ai l'envie de lui dire. Et puis, je m'en fous qu'il aille jusqu'au bout, qu'il disparaisse, qu'il s'abîme un bon coup, et puis qu'il foute le camp, et puis que je le vois plus. Pourquoi je fais ça? Parce que tu m'indiffères? Non, parce que ça me touche et que je me sens impuissant. C'est la même chose qui se passe pour toi. Tu te sens impuissant, t'es touché, et tu existes comme ça en t'enfermant dans ceci, cela. Et bien, tu vois, moi aussi, par moments, j'ai envie de tout foutre en l'air. C'est pas par indifférence. C'est parce que, justement, je suis touché et je me sens impuissant. C'est une réaction humaine. C'est pas la bonne, parce qu'on fait le contraire de ce qu'on voudrait vraiment. Ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien, c'est pas de te foutre dehors et te dire non, c'est pas ça. Et pourtant, j'en arriverai par moments à penser ça, plutôt que de supporter le sentiment d'être là, d'impuissant, devant toi, qui continue tes pratiques qui sont insupportables. Ouais. C'est-à-dire remettre ce jeu de la vie. Voilà, donc je m'arrête là et maintenant on essaie de, à partir de vos questionnements et vos réactions, de voir comment ça peut éventuellement, en tout cas je l'espère, vous aider à réagir devant des difficultés dont les ordres, vous voyez, là, le spectre est extrêmement large, mais qui participe à mon ami du même mouvement, que ce soit à son extrême le plus tragique, jusqu'à ces situations les plus banales, mais dans lesquelles il y a toujours cette même fermeture et qu'il ne faut pas les laisser s'enfermer dans cette situation-là. Alors à vous, la parole.